Avoir raison avec Virginia Woolf. Ce sera 5 moments consacrés à faire entendre une autre Virginia Woolf, une pensée pour aujourd'hui, vivante, insolente, combattante, joueuse. Aujourd'hui, entre les actes, avec Josiane Paco, professeure de littérature anglaise à l'Université Lumière Lyon 2 et psychanalyste, qui a présenté ce texte de Woolf dans la collection de la Pléiade, et avec son maître Jacques Aubert, spécialiste de Joyce, professeur de littérature à Lyon 2, qui a dirigé les 2 volumes de romans et nouvelles de Virginia Woolf dans la même Pléiade. Nous allons revenir sur ce texte étrange, ultime et inclassable, et nous allons interroger à travers ses ellipses et ses tensions le rapport de Virginia Woolf au théâtre et à la psychanalyse. Il est question ici d'anamnèse, de mise en scène, de trauma et de répétition. Avec Miss Latrobe et sa pièce étrange, de quelles vacances s'agit-il, Josiane Paco?
Si on aborde ce texte par le biais de la psychanalyse, la vacance dont il s'agit, c'est certainement pas un sentiment de vide qui serait dans la psychologie de Miss Latrobe, mais qui serait plutôt quelque chose qui touche à la question du féminin et de que veut une femme, hein, si on l'aborde par le biais de la psychanalyse. Et il y a cette image, par exemple, dans La promenade au phare, où Mrs. Ramsay est l'objet de toutes les représentations idéalisées de tous les gens qui gravitent autour d'elle. Mais elle sait qu'à l'intérieur, c'est creux, il n'y a rien. Donc c'est ce vide un peu mélancolique quand même, si on fait référence à la psychanalyse, que l'écriture va tâcher de border, de cerner, de contenir aussi par des constructions romanesques et par l'acte de l'écriture surtout.
Alors ça donne un cadre général en quelque sorte, et peut-être on peut commencer pour être plus concret.
Voilà. Hein,
par Entre les actes, donc ce dernier roman, et commencer par encore plus concret, Entre les actes ne s'est pas toujours appelé Entre les actes. Et son premier titre, c'était quoi?
Alors effectivement, son premier titre, et jusqu'à très longtemps, ça a été Points Hall, qui désigne un lieu, une demeure campagnarde, familiale, campagnarde. Et donc elle voyait ça comme un centre illuminé où se passait une réunion de famille et puis aussi une parade villageoise, donc qui donne lieu à une représentation de théâtre. Et très tard, en février 41, vraiment très tard, Woolf, dans son journal, note ça: je viens de terminer Points Hall, finalement je vais l'appeler Entre les actes. Et Elle dit parce que j'ai écrit ça par intermittence. Oui. Ça, c'est très intéressant, cette question de l'intermittence, qui est la question du rythme. Parce que comme vous le dites très bien dans votre livre, le livre que vous avez consacré à Woolf, Woolf est une artiste du rythme et du tempo. Et ça, c'est absolument fondamental. Par rapport à l'acte d'écriture, son acte quotidien, il faut qu'elle joue sur plusieurs registres de voix, par exemple la biographie. Elle écrit une biographie.
Et à ce moment-là, elle écrit effectivement une biographie.
Tout à fait, oui, oui. Donc c'est une écriture complètement différente. Il faut tenir un fil, le fil d'une vie, la vie de Roger Fry, en l'occurrence. Et donc ça la stresse beaucoup, comme on dirait aujourd'hui. Et donc elle dit qu'elle écrit des petits bouts de Points Hall pour changer le rythme, pour aérer, alléger un petit peu la chose.
Ce que tu viens de dire me conduit à suggérer que avoir raison avec Virginia Woolf, c'est peut-être aussi la laisser faire résonner le langage d'une manière générale, mais très précisément ses voix différentes. Oui. Parce que ce qui est frappant, c'est l'étendue, la variété de ses voix et de ses écritures, que l'on a tendance évidemment à hiérarchiser. Il y aurait les œuvres littéraires, les romans, enfin, ou appelons ça roman pour la commodité de l'affaire, mais aussi le journal, mais aussi les essais, mais aussi bien d'autres choses, y compris la correspondance.
Oui.
Et donc, Il s'agit de résonance, il s'agit de ce qui résonnait en elle et qui résonnait par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose de l'ordre d'un vide central.
Oui, absolument.
Auquel justement tu faisais allusion là.
Oui, tout à fait. Et si on peut rajouter quelque chose ici, c'est qu'elle avait dans la tête, au même moment, idée d'écrire une histoire de la littérature anglaise.
Peut-être on peut préciser quel est ce moment, Josiane Paco, parce que c'est un moment, donc c'est tout à fait à la fin de sa vie, d'où l'intérêt de ce regard rétrospectif.
Donc oui,
parce qu'elle l'écrit entre 39 et 41, en fait.
Oui, oui, c'est d'ailleurs assez poignant, cette histoire, parce que quand on suit son journal, elle termine « Between the Acts » et elle relie les épreuves. Et elle est assez satisfaite des épreuves, donc c'est en février 41, et en mars 41, elle se suicide.
Mais pour revenir en arrière, donc il y a en même temps les épreuves d'Entre les Actes, mais il y a la fin des années qui est quand même terminée. Enfin, il faudrait peut-être rappeler les trois livres qui se chevauchent finalement, plus effectivement la réflexion sur la guerre, la réflexion sur Londres sous les bombes...
Elle vient de finir les années, et dans les années, elle a choisi un traitement du temps qui a été pour elle une torture. Vraiment, elle le dit dans son journal. Hein, et elle dit « je viens de finir cette misère, les années ». Bon. Et elle a besoin justement de changer complètement de registre et de retourner vers cette écriture qui est un creuset de voix quand même. Le roman, c'est un creuset de voix. Malgré tout, et cette idée qu'elle peut le renouveler en mélangeant la poésie, le théâtre. Elle a déjà fait ça avec Les Vagues, qu'elle présentait comme « play poem in prose », c'est sa formule, restée célèbre. Elle fait un peu la même chose dans « Between the Acts », et c'est aussi un traitement du temps par rapport à ce qu'elle a fait dans les années dont elle n'était pas du tout satisfaite.
Et d'ailleurs, Entre les Actes, « Between the Acts » ressemble beaucoup aux Vagues, et ressemble aussi beaucoup à la Chambre de Jacob. Donc peut-être vous pourriez nous montrer en quoi ces trois livres résonnent, quoi, le premier, le dernier, et celui du milieu, en fait.
Par rapport aux Vagues, en venant ici, je me suis dit quand même, Les Vagues, c'est le roman polyphonique parfait.
C'est vrai.
Musicalement, c'est vraiment de la poésie et de la musique aussi. Entre les Actes, c'est de la musique, mais c'est un roman cacophonique, je dirais.
Et Pourquoi cacophonique ?
Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus heurté, c'est beaucoup plus accidenté. Comme terrain, c'est un travail sur la voix qui est dans l'urgence quand même, parce que...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, l'urgence ? Parce que c'est c'est très calme en même temps.
Alors bon, quand on va traduire un texte, on s'appuie sur la correspondance et le journal d'un écrivain. Et là, je l'ai suivi de très très près, et l'urgence, c'est ce qui se passe dans le monde autour d'elle.
Oui.
Voilà. Et c'est en particulier ses voix, pour elle, la voix de Hitler, par exemple, à la radio. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel elle revient tout le temps. Et bon, la dimension de la voix, si un psychanalyste parle de la voix, on ne va pas en parler ici trop longtemps, mais ça a un poids d'objet très important pour elle. Donc, Entre les Actes, c'est une façon de traiter pour elle, par l'écriture, cette urgence-là.
Est-ce que vous
rappelez... Et de ce point de vue-là, ce qui est tout à fait remarquable, c'est le côté tohu-bohu que tu évoquais. L'expression qui lui vient à l'esprit, c'est en fait un peu avant le déclenchement de la guerre de 14, lorsqu'elle parle de son travail en disant « la grande guerre ».
Oui.
Il y a une espèce de prémonition qui est absolument extraordinaire. Et ce qu'elle dit... C'était une guerre visant à défendre des choses comme des pierres, des jarres, des épaves au fond des mers, des arbres, des étoiles, de la musique, contre les gens qui croient en ce qu'ils voient. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette intuition qu'elle a de ce qui est en quelque sorte une toile de fond, et une toile qui résonne en même temps, qui a cette dimension pour l'oreille, et qui est porteuse de mort et de destruction.
Tout à fait.
C'est ça qui est absolument génial, n'est-ce pas, mais qui donne la mesure de la résonance que peut avoir pour elle le monde dit réel.
Oui.
Le réel.
Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, voilà. Jacques. Et moi, j'étais très frappée, par exemple, par toutes les références qu'elle faisait à la voix d'Hitler, la voix de son maître. Bon, on l'entendait à la radio. C'était très réel et très concret pour elle. Elle était mariée à un juif. C'était la bataille d'Angleterre. Et elle et son mari avaient... Bon, on ne savait pas. Hein, on pensait que Hitler allait envahir la Grande-Bretagne quand même. Et donc, avaient pris, elle et Léonard, avaient pris la décision, en cas d'invasion, de se suicider dans leur garage pour échapper aux nazis. Donc, voilà, il y a une urgence par rapport au réel, par rapport à la vie.
Il y a cette, d'accord avec vous, il y a cette scène merveilleuse du journal où elle dit ce qui serait merveilleux, c'est qu'on se promène tous les deux, Léonard et moi, et puis il y aurait une bombe qui tomberait juste sur nous deux, et comme ça, on mourrait tous les deux ensemble.
Oui.
Je trouve toujours que cette scène, enfin, cette page est très belle, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, la guerre est très présente, c'est vrai. Alors, est-ce que la parade villageoise, Josiane Paco, permet de résister avec sa joie théorique, enfin, de principe en tout cas, au chagrin, à la mélancolie, à la tristesse de la guerre qui est autour, quoi, qui rôde autour?
Certainement, parce qu'elle y introduit une dose d'humour. Enfin, c'est trois actes qui sont répartis dans le roman et qui correspondent. C'est son histoire de la littérature anglaise. Donc, un se passe à l'époque élisabéthaine. Elle adorait le théâtre élisabétain, Shakespeare. L'autre se passe à l'époque de la Restauration. Et l'autre se passe donc à l'époque victorienne. Et donc, elle y introduit une dimension que j'appellerais presque carnavalesque. Hein, c'est du Shakespeare aussi quand même. Comique, épique, tragique, tout en même temps. Vous avez la coiffe de la reine d'Angleterre qui s'envole avec un coup de vent, des choses comme ça. Et l'humour, c'est dans le décalage du langage. Alors, il y a quelque chose de très important à dire par rapport à la langue et l'écriture. C'est que, en fait, pour Woolf, l'histoire de la littérature, c'est l'histoire de la langue anglaise. C'est l'histoire de la diction aussi. Et donc, pour les avoir regardés de près, ces trois actes, elle imite la diction, le style d'une époque. C'est pas Woolf qui écrit, hein. Elle pastiche, si on veut. Et l'humour, il surgit du décalage, évidemment, que le pastiche introduit, qu'on sent très bien. Elle s'amuse beaucoup, là. Elle s'amuse, vraiment. Il y a une jouissance de jouer avec les clichés de la langue. Et pour elle, l'histoire de la littérature, c'est la mémoire de la langue. C'est le style d'une époque. Et elle restitue ça très bien dans ses trois actes.
Donc ça rejoint aussi ces moments de lecture.
Oui.
Oui. Et finalement, c'est une mise en cause de King's English.
Complètement. Ah,
ce qui est la définition même de ce que Lacan a appelé la langue.
Voilà.
C'est-à-dire ce qui échappe, en fait, aux règles dites de la linguistique, de la linguisterie, du pédantisme linguistique, et qui est de l'ordre de ce que les gens disent pour de bon, pour de vrai.
Voilà. Hein? Au plus près du réel des corps.
Voilà, voilà.
Et alors, elle a une formule magnifique, Jacques, pour la langue lacanienne, c'est le little language.
Oui,
tu sais,
absolument.
Dans les vagues. Vous connaissez ça, Geneviève, aussi, sûrement.
Qui est comparable à ces petits bouts de tissu qu'un enfant rapporte à sa maman, enfin, etc.
Voilà.
Et qui, en fait, sont une grande jouissance pour la dite maman. Enfin, bon,
voilà.
Il dit quelque chose, là, l'enfant.
Bien sûr. Mais ce que je pensais en vous écoutant, c'est que il y a donc ce registre entre les actes, qui est le registre des trois actes.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi, comme vous le disiez, entre
voilà,
les actes,
vie.
C'est-à-dire la vie
voilà.
Et les personnages qui circulent et se baladent.
Oui.
Et c'est peut-être, lui était-il difficile de concevoir son écriture comme visant une correction, c'est-à-dire une certaine... qu'elle pouvait corriger son texte pour qu'il soit présentable.
Mmh.
Et le fait qu'en fait, elle n'a pas corrigé les épreuves d'entre les actes, tout se passe comme si elle acceptait finalement le ratage. le ratage en signifiant, significatif, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, le ratage qui dit quelque chose au plus proche de l'expérience et de l'expérience la plus concrète, celle justement de l'oreille.
Oui. Le ratage est aussi, finalement, c'est une écriture de l'impur, des bribes, des fragments. Hein. Voilà. On dira jamais toute la chose en elle-même, mais ce sera par éclat, bribes et fragments, oui. Qui est d'ailleurs une citation de Shakespeare. Hein. Elle s'appuie là-dessus, quand même,
bien sûr,
dans ce roman-là.
Tout à fait explicite.
Oui.
Alors, il y a Miss Lma, je vais quand même vous ramener au personnage, qui sont les acteurs et la metteuse en scène, donc cette Miss Latrobe, avec son nom tellement bizarre. Comment vous avez une interprétation pour cet étrange nom?
Alors, bon, j'ai cherché un petit peu,
j'imagine.
Bien sûr. Apparemment, ce serait dérivé. Déjà, c'est une sonorité française.
Oui.
Et ce serait dérivé de trop barré, hein, le trouvert, le troubadour. Donc, on est dans le registre, effectivement, de la poésie, de la voix, de la musique aussi. Ça, c'est pour l'origine de son prénom et ça lui donne de son nom et ça lui donne un coefficient d'étrangeté dans le roman, véritablement.
Elle est un peu bizarre, quoi.
Oui. Bon, elle rappelle un petit peu Lily Briscoe dans La Promenade au phare. C'est une figure de l'artiste qui pose les questions que se pose Woolfe à l'époque quand même et que Woolfe pose à son époque parce qu'à l'époque, on disait que les femmes étaient incapables de créer une œuvre d'art. Mmh. Hein, il fallait qu'elle reste chez elle et qu'elle fasse des enfants. Mais bon, pour ce qui était de la création artistique, c'était au génie de ces messieurs. Et donc,
Vous considérez que c'est une affaire réglée?
Non, je pense pas. Je pense pas, mais en tout cas, Woolfe pose la question explicitement. Elle est une des premières dans la littérature anglaise, quand même. Donc, chez Lily Briscoe, on a déjà cette question, mais que veut une femme? Eh ben, moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Bon. Miss Latrobe est au-delà. Elle est posée comme quelqu'un qui est absolument indifférent aux semblants de son époque. Voilà. Les semblants sexués, les semblants de genre, y compris de genre littéraire. Et elle est, elle, au plus près du réel. Voilà. Hein, ça, c'est, moi, je crois que Woolfe la pose comme ça.
Et pourtant, son spectacle, finalement, ne va pas être tout à fait un triomphe. Et plutôt la réalité donc, qui prend le dessus dans la fin du roman.
Oui, parce qu'elle a une trop grande, grande conscience du ratage, justement. Mais moi, ce que je trouve magnifique à la fin du roman, c'est que finalement, ce ratage... Parce que c'est trop trivial, cette pièce, il y a eu trop de ratés, quoi. Ce ratage, c'est la condition de l'œuvre à venir. Il y a un passage magnifique, alors...
Oui, lisez-le, nous.
Elle est donc à la fin de la... après la représentation, elle est dans un bar et elle écoute les conversations autour... Et ça, c'est de la langue, hein, parce que c'est tout n'importe quoi. Les gens parlent peut-être dans le dialecte du coin, on ne sait pas. Alors voilà ce qu'on lit à ce moment-là. Elle leva son verre à ses lèvres, elle but, elle écouta. Des mots d'une syllabe coulaient et rejoignaient la boue. Les mots trempés dans la boue. Et les mots de la langue sont des mots d'une syllabe, ce n'est pas des grands mots. La boue devint fertile, les mots s'élevèrent au-dessus de l'attelage de bœuf qui avançait lentement à travers la boue, des mots qui n'avaient pas de sens, des mots merveilleux. Et là, elle pense à sa prochaine pièce.
Qui est en train de surgir. Voilà.
Et là, on comprend qu'effectivement, pourquoi elle n'a pas corrigé son texte-là. Parce que corriger son texte-là aurait été dans une certaine logique du définitif.
Voilà.
Voilà.
Et de faire œuvre un peu. Et
voilà.
Je crois que c'est pas la question. En fait.
Non, ça n'est jamais d'ailleurs la question chez vous. Je pense que le palpitant doit continuer
toujours.
À palpiter tout le temps en fait.
Et que les sens l'emportent sur le sens.
Hein. Oui.
Faire en sorte que les sens l'emportent sur le sens.
Et alors il y a les autres personnages. Jacobert, Jeanne Paco, c'est-à-dire Isa, Gilles, Mrs. Mandresa. Il me semblait, moi, que cette Isa était l'autre personnage féminin central du roman. C'est un drôle de personnage aussi.
Oui.
C'est un personnage très, très moderne, très...
Complexe.
Oui, très complexe, avec des sentiments très ambivalents, qui passe son temps à dire « Mon mari, je l'aime et je le déteste. »
Voilà.
Je le déteste autant que je l'aime, comme il est beau, comme je le hais.
Oui, oui.
C'est une figure de l'ambivalence et Woolf venait de lire Freud. Et elle était très intéressée par cette, justement, cette question que Freud a amenée sur la scène de l'ambivalence. Hein. Woolf note quelque part dans son journal cette duperie qu'est l'amour du prochain. Bon, et Isa, elle est habitée par tout ça. Et puis...
Elle le formule surtout.
Oui.
Elle en est habitée comme tout le monde, mais elle le
Exactement.
Formule pas voilà. comme tout le monde.
Et Isa, c'est celle aussi qui comme Rhoda dans Les Vagues, permet d'explorer la séduction du suicide. On peut le dire comme ça, quand même.
Et c'est drôle, parce que j'ai pensé que vous alliez dire la séduction tout court, moi.
Les deux.
Oui.
Oui, puisque elle s'intéresse à un gentleman farmer, de près, de loin. Bon, ça, c'est un peu du côté de la comédie amoureuse, on va dire.
Oui, mais paradoxalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques Aubert, je trouve toujours en lisant ce roman qui n'est pas assez lu, pas assez connu, pas assez mis en valeur. C'est toujours celui qui passe à l'as. C'est pour ça que je trouvais ça très important qu'on consacre cet épisode d'Avoir raison avec Woolf à Entre les actes, dont on parle si peu finalement. Il me semble qu'elle montre bien dans ce livre-là à quel point la vraie comédie a lieu hors de la comédie, puisque la vraie
oui.
comédie, c'est à laquelle on s'intéresse dans la lecture, c'est les relations d'Isa, justement, avec son mari, cet homme, et l'ensemble des gens du village.
Oui.
Alors, ce livre est relativement peu aimé et peu lu, parce qu'il est difficile, quand même.
Vous trouvez qu'il est difficile ?
Ah oui, tout à fait.
Oui. Oui.
La dimension chaotique est... un peu encombrante, je trouve. Mais moi, elle me gêne, dans tous les cas. Pas vous ?
Non. Ben, pas du tout, en
fait. Ah bon ? Ah, d'accord.
Non.
Ah, oui.
non, je la trouve... En fait, moi, j'aime énormément ce livre parce que je le trouve... Je trouve qu'il a une modernité très, très, très particulière.
C'est vrai,
en fait.
C'est vrai.
Et que, justement, dont on ne le crédite pas, justement, parce qu'il n'en a pas les apparences. Les apparences d'un roman presque d'une bergerie. En plus, on a ce tableau de Constable ou de je ne sais qui au début.
Oui.
On a vraiment cette impression de divertissement, freshwater comme ça. Et en fait, une fois qu'on y entre, qu'on s'y installe, qu'on commence à le lire vraiment, il a un côté sable mouvant, hein, justement. On ne sait pas très bien où
c'est
on est.
C'est un terrain accidenté.
Et il est captivant. Mais il est moins difficile à lire de certaine façon que Les Vagues. Parce que dans Les Vagues, la plupart des gens, quand on ne les y prépare pas, ils ne savent plus qui parle, où on est. Enfin, l'abstraction, disons, abstraction réussie, comme disait Woolf, l'abstraction réussie, elle vous attrape. Alors que dans Points, dans Entre les actes, ce n'est pas abstrait.
Oui, cela dit, ce qui me gênerait peut-être le plus dans l'affaire, c'est qu'elle ne se débarrasse pas assez de la représentation. Voilà, c'est peut-être une déformation de ma part par rapport à certains de ses contemporains qui ont travaillé sur le langage, à proprement parler. Le fait d'évoquer plutôt que de pratiquer le fonctionnement par bribes, etc.
Morceaux,
etc.
Et...
elle ne le pratique pas tellement. Elle l'évoque, elle nous le laisse à poursuivre, en quelque sorte.
Oui, c'est aussi ça qui crée l'air.
Oui, heureusement qu'elle a mis le gramophone, quand même.
Oui,
voilà.
Oui,
oui.
Parce que, voilà, c'est le gramophone, c'est la voix qui parle en bribes.
Oui.
Et qui ponctue et qui rythme un peu tout ça, quand même.
C'est ça qui peut-être qui me gêne un peu, d'être un peu laissé sur sa fin.
Oui, moi c'est ça
que j'adore, point de vue, en fait. Du point de vue esthétique, du point de vue de la réception, disons.
Mais c'est pour ça que je pense que c'est, d'une certaine façon, le dernier certes, mais un ouvrage qui est aussi audacieux que La Chambre de Jacob.
C'est-à-dire
c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui fait écho. C'est-à-dire que c'est le livre auquel il ressemble le plus.
Oui.
C'est vrai.
La Chambre de Jacob, c'est pas le premier, mais il y a ce côté le premier, le dernier, ou dans cette dans ce genre-là, et ils ont les mêmes caractéristiques. Ça a l'air normal, mais c'est pas normal du tout.
Oui.
Les gens parlent, mais c'est pas normal.
Oui, oui. Audacieux, c'est... expérimental aussi. Bon, est-ce que je ne pense pas sincèrement que ce soit un chef-d'œuvre, mais c'est pas la question au fond.
Vous trouvez que la chambre de Jacob est davantage un chef-d'œuvre ?
Peut-être plus une forme achevée, oui, peut-être. Mais je pense que surtout, entre les actes, c'est un témoignage extraordinairement vivant d'un combat avec l'écriture et de l'acte d'écriture.
Oui. Et donc avec le réel, enfin.
C'est... Voilà.
Un combat perdu, vous diriez.
Et c'est cette...
Héroïque, mais épuisant et perdu pour elle, oui.
Vous voulez dire que le gramophone ne fait pas le poids face à la vraie voix de Hitler.
On
a l'impression d'un livre qu'elle a abandonné, qui lui est tombé des mains.
Oui. Alors, ce que dit Léonard, c'est que donc elle l'avait relu une seule fois. Et puis, elle avait corrigé un peu les épreuves. Et Léonard dit que, sans doute, si elle l'avait relu une deuxième fois... Elle aurait peut-être changé quelques petites choses dans la ponctuation, mais guère plus.
Ouais. Vous parliez justement, Josiane Paco, d'une virgule.
Oui.
De la virgule sur laquelle on pourrait conclure cet entretien.
Oui. Oui.
Donc, qu'est-ce qu'elle représente, donc, cette virgule que d'ailleurs Virginia Woolf ne savait pas du tout placer, de manière générale, dans ses phrases.
Le point-virgule, vous voulez dire ?
Non, la virgule entre. Vous disiez. Que finalement, ce dernier texte, cet opus final, n'est pas un pont.
Oui.
Puisqu'il ne fonctionne pas comme un pont. Mais peut-être c'est une virgule de protection.
Oui.
Enfin, une virgule, c'est qu'une virgule puisse protéger.
Voilà, oui.
Ça fait partie de la série finalement inaugurée par le nom initial du lieu.
Oui.
Avec point, le Z final aussi.
Oui.
Et l'idée de totalité. On entend quand même All qui est là derrière.
Oui,
point final.
Elle veut ponctuer. Oui.
Voilà.
Elle
donc, y a, c'est un mot, ou peut-être une fabrication, ça reste à voir, qui évoque justement quelque chose de l'art de conclusif. Et c'est qu'elle a toutes les peines du monde à faire.
Oui, par définition, dans son écriture à elle, qui est à la fois ancrée dans l'époque contemporaine, mais ancrée dans la folie contemporaine, on va dire, mais aussi ancrée dans sa propre folie, qui est la folie de nous tous. Je suis absolument pas pour dire que c'est une folle qui écrivait, c'est vraiment pas la question. Mais elle avait cette, pour elle, ponctuer, c'était quelque chose d'impossible. Il fallait tout le temps que l'écriture fasse barrage à ce qui résonnait quand
même. Absolument.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Avoir raison avec Woolf, une série proposée par Geneviève Brisac, réalisé par Marie-Laure Ciboulet, prise de son Manuel Couturier. Demain, Guerre à la guerre, avec la psychanalyste Sabine Procoris.